Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous rencontrons aujourd'hui le plasticien Philippe Domergue. Philippe Domergue s'intéresse à la mémoire, dont il dit qu'elle est ni opaque ni transparente. Son travail se déploie à partir des photographies sur des supports les plus divers, des murs, des sols, des pierres et très souvent sur du bois, pour laisser apparaître, comme il dit, les traces du temps. Un de ses catalogues ouvre sur une citation du moine zen Dogen. En ce monde, qui peut se prétendre être véritable? Lequel d'entre nous est capable de discerner où finit le ciel bleu? Cette question de qu'est-ce qui est véritable semble être le fil rouge de l'œuvre de Philippe Domergue, qui joue avec notre perception, crée des illusions optiques, mais questionne aussi matériellement, au travers de l'assemblage de photographies de manière installative et monumentale, notre rapport à la mémoire traumatique, à nos oublis collectifs. Mais écoutons maintenant Philippe Domergue parler de sa pratique. Grammaire fantôme. Bonjour Philippe.
Bonjour Nadia.
Tu es venu de Perpignan?
Oui.
Ce matin, en train?
En train.
Philippe, tu es artiste?
Je suis artiste, plasticien, on va dire.
Et tu as fait une exposition tout récemment à Rivesaltes.
Au mémorial de Rivesaltes. C'est un lieu qui a été créé en 2015, avec, donc, sur le site de l'ancien camp de Rivesaltes. Et c'est un bâtiment qui a été signé par l'architecte Rudy Ricciotti, donc, qui a été inauguré en 2015 et qui, donc, qui approche à sa 10e année d'existence en tant que centre. Donc c'est un centre, on va dire, c'est un mémorial, c'est pas vraiment un musée, c'est un musée, mais c'est aussi un centre de recherche. Il y a des historiens, il y a des chercheurs qui sont installés là, il y a les archives. Il y a un parcours muséographique, il y a un auditorium de 150 places, il y a des salles d'expo temporaires, des salles de travail parce qu'il y a énormément de lycées, collèges qui viennent visiter le site et le mémorial. Donc moi j'ai exposé dans ce magnifique lieu, qui a la particularité d'être très discret. On le voit à peine quand on arrive sur le site. L'architecte a fait le choix de ne pas rivaliser avec les quelques baraques qui restent, parce qu'il reste encore des baraques en mauvais état, mais il y en a quelques-unes. Donc, l'architecte a décidé de faire un bâtiment enfoui dans le sol. Donc on l'aperçoit à peine. Par contre, il est très très dense. C'est un monolithe de béton, un bloc de mémoire, il appelle ça. Et voilà, qui mérite d'être visité.
Et comment tu es arrivé à travailler sur place, enfin avec le mémorial? C'est un choix de ta part?
Oui, alors il y a un nouveau projet depuis un an avec la nouvelle direction du mémorial. Il y a un projet qui va se reproduire chaque année, d'inviter des artistes actuels, contemporains, à faire un travail en lien avec le camp de Rivesaltes. Donc ça s'appelle Art in Situ. Là, c'était Art in situ, trois regards contemporains sur le camp de Rivesaltes. Moi, j'ai travaillé, donc on était trois, moi j'ai travaillé avec la matière même du camp, puisque je travaillais avec des restes de baraques, des lattes, quelques lattes qui restaient, que j'ai pu récupérer. Donc c'est un matériau qui est déjà porteur de traces, de mémoire pour moi. Et après, là, avec ce matériau, j'ai fait un travail d'hybridation en utilisant des photographies de 1942, photographies prises dans les baraques. Donc, j'ai eu une sorte d'injonction quand je suis arrivé sur le camp. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ces vestiges, avec ce qui reste de ces baraques. Mais comme je suis un plasticien de l'image depuis toujours, j'ai eu besoin de trouver des images pour faire mon projet. Voilà, donc il y a le support qui est le bois des baraques et les images, c'est des images de 1942 prises dans les baraques par un photographe suisse qui s'appelle Paul Sen, donc qui est décédé en 1954, je crois.
Il a fait ses photos dans quelles conditions, dans quelles circonstances?
Alors, c'est un photographe qui travaillait pour... Alors, il n'y avait pas les ONG, je pense, encore, hein, dans les années 40. Ça s'appelait autrement. Il travaillait pour l'Ayuda Suissa. Donc, c'est l'ancêtre de la Croix-Rouge. Et donc, pour récolter des fonds, pour aider les victimes de guerre... Les associations comme la Ayuda Suisse avaient besoin de photos pour montrer ce qui se passait sur le front, dans les camps. Et donc, ce photographe est venu en mission deux fois, je crois, au camp de Rivesaltes, enfin, au moins une fois en 1942. Et il a photographié donc les républicains espagnols qui étaient détenus dans le camp. Et moi, j'ai travaillé avec des photos de cette période.
Et ces photos, est-ce qu'ils étaient mises en scène?
Alors, moi, effectivement, dans mon travail, j'attribue une grande importance, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, au support. Pour moi, le support participe au moins à 50% dans l'œuvre. Et là, c'était la première fois que je pouvais travailler avec des supports, des supports liés au contexte historique, puisque c'était des lattes, du bois, des baraques, donc qui a survécu au moins 60 ans. Je voulais effectivement mettre en scène ces traces de l'histoire et les combiner avec des photos. Et là, j'ai travaillé pour la première fois avec de la photo sur un support transparent ou semi-transparent. Parce que pour moi, la mémoire, c'est quelque chose qui navigue entre opacité et transparence. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est un peu l'un, un peu l'autre. Et pour moi, c'était important d'arriver à trouver une symbiose entre les deux. Et jusqu'à cette exposition, je n'avais travaillé que sur du papier, impression laser sur papier. Et là, je me suis dit, il faut que je travaille avec un support qui laisse participer, qui laisse voir le bois à travers, qui laisse voir donc les traces sur ces lattes, les marques du temps. Mais ça a été assez difficile parce que le calque, c'est beaucoup plus rigide que le papier. C'est nerveux, ça ne réagit pas du tout pareil, donc j'ai eu beaucoup d'échecs. Voilà, je maroufle, hein, le terme exact c'est le marouflage. Bon, c'est une technique ancienne hein, qui consiste à transférer une œuvre qui est sur un support mince, sur un autre support, en général plus épais, plus rigide. Ça se faisait pour le papier sur la toile ou la toile sur le bois. Donc moi, je maroufle depuis très longtemps. des images photographiques sur différents supports. Ça peut être même en extérieur, sur des parois, sur des murs, sur des monuments historiques. C'est arrivé souvent. Et là, pour Rivesaltes, évidemment, j'avais ces vestiges, ces planches, ces lattes. Et je me suis dit, je vais maroufler là-dessus. Donc, les photographies de Paul Sen. Donc, j'ai fait un choix de photos. Et donc, je réponds quand même à ta question, qui est la mise en scène. Bien sûr, je voulais que ces architectures photographiques, finalement, soient mises en scène pour éprouver physiquement le regardeur, le public, qui est une dimension physique. Parce que les photos de Paul Sen, moi, je les avais vues dans un catalogue. Bon, c'est intéressant, mais pour moi, la photo comme ça, elle n'est pas assez physique, elle touche pas vers elle n'est pas habitée, comme quand elle est marouflée sur un support qui a une dimension physique, justement. Là, c'était le cas.
Ma question s'est portée sur les photos et pas encore sur ton travail. C'est-à-dire, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce photographe, lorsqu'il est allé dans le camp, pouvait réellement faire des photos, ou est-ce que ces photos étaient mises en scène pour qu'il puisse faire des photos?
Oui, oui. Je pensais que tu parlais de moi, ma mise en scène.
Oui,
d'accord.
Mais ce que très bien...
Oui, je sais que dans l'histoire, il y a eu souvent des falsifications, des mises en scène pour tromper le public, quelque part, pour montrer que le camp était tout à fait viable, confortable même. Là, je ne sais pas si j'ai tous les éléments pour répondre, je ne suis pas historien, mais il semblerait que ça se soit fait sans mise en scène. On voit les personnes qui sont sur les lits, parce qu'il faisait très froid, il n'y avait pas de chauffage évidemment. Donc, passer beaucoup de temps dans le lit pour être chaud. Donc là, sur une des photos, une des principales photos que j'ai utilisées, on voit des personnes assises sur le lit. Donc, ils se sont relevés pour la photo. Bon, certaines sourient un petit peu, d'autres ont un visage neutre, d'autres ont un visage plus marqué par la souffrance. C'est assez mélangé. Je ne pense pas qu'il y ait de mise en scène au départ. Je ne pense pas.
Donc il y a ces documents que tu as pu récupérer de l'archive sur place.
Oui.
On t'a ouvert les archives pour...
Voilà, j'ai eu la chance et ça c'était un beau coup de pouce pour moi. Paul Sen étant décédé en 54, moi j'exposais en 2023-24. Donc, je ne vais pas me tromper, 70 ans plus tard, après les prises de vue du photographe, je décide de faire une exposition avec ces images dont les droits sont libres. Les droits d'auteur sont libres. C'est 70 ans. À partir de la mort de l'auteur. Donc ça, mais je n'ai pas choisi ce photographe pour ça. Je l'ai choisi parce que ces images m'ont touché. Et j'ai appris avec l'iconographe du mémorial qu'il n'y aurait aucun souci pour les droits. Et ça m'a encouragé à continuer mon projet.
Et donc, c'est un procédé qui est propre et qui n'est pas nouveau?
Non.
Tout à l'heure, tu as déjà dit que voilà, tu as travaillé sur d'autres mémorials. Peut-être on peut parler un peu comment tu t'es arrivé à ce type d'objet, d'investir la mémoire, de réfléchir sur la mémoire aussi.
Oui, alors d'abord peut-être un petit retour sur ma pratique artistique. Donc j'ai fait les Beaux-Arts à Perpignan dans les années 90. Et à cette époque, il y avait encore l'influence support-surface. Moi, j'étais d'ailleurs le premier étudiant à travailler avec un médium autre que la peinture et la sculpture. C'est la photo. Moi, j'étais un extraterrestre. Dans les années 80-90, la photo ne faisait pas partie du champ des arts plastiques, où ça commençait à peine. Donc moi, je me suis inscrit dans le champ de la photographie plasticienne, tel qu'il a été défini par, comment elle s'appelle, Baquet, Dominique, non, Dominique Baquet, je crois. Ouais. Et moi, je le pratiquais sans le savoir, parce que c'était théorisé plutôt à Paris qu'à Perpignan. Donc moi, en tout cas, je voulais me démarquer de support surface. Et j'arrivais avec un médium, d'ailleurs, qui n'avait rien à voir, a priori, avec support surface. Et en fait, j'ai cru refouler support surface complètement, mais en fait, non. Puisque, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le support dans mes œuvres a toujours eu de l'importance. La photo aussi, bien sûr, mais les deux réunis. Voilà. Et pourquoi, c'est pourquoi Rivesaltes, ça a donné ce que j'ai expliqué. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi ce travail sur la mémoire, comment c'est venu? C'est venu en 1999. On m'a commandé, donc c'était le 60e anniversaire de la Retirada. Alors, la Retirada, c'est l'exode, ça veut dire la retraite en espagnol. Parce qu'il faut savoir qu'en 1939, il y a eu le plus grand exode en Europe, le plus grand exode en tout cas documenté. C'est l'exode des républicains espagnols qui ont fui la dictature franquiste. Donc 1939, c'est pas loin de 500 000 républicains espagnols qui traversent la frontière et qui passent dans les Pyrénées-Orientales. En quelques semaines, donc pas loin de 480 000, 500 000. Il faut savoir qu'à cette époque, en 1939, dans les PO, il y avait 250 000 habitants, dans tout le département. Voilà, c'est pour donner une idée du flux, et donc du chaos qu'il y a eu aux frontières, etc. Donc en 1999, 60e anniversaire de la Retirada, le Mediator, qui est une scène nationale, une scène conventionnée pour les arts du spectacle à Perpignan, le Mediator crée un événement pour commémorer cet anniversaire-là, avec essentiellement du théâtre, du spectacle, de la musique, du chant, de la poésie, etc. Mais ils cherchaient un artiste visuel. Et c'est là qu'ils ont fait appel à moi. Et moi, j'ai découvert la Retirada en 99 pour cet événement. Je n'avais jamais entendu parler et je n'étais pas le seul. Pourtant, je suis dans la région depuis toujours. Mais voilà, ce n'était pas enseigné à l'époque, c'était tabou. C'était parce que ces réfugiés, ils ont été très mal accueillis. On peut comprendre aussi que 500 000 réfugiés en quelques semaines, ce n'est pas évident à gérer. En tout cas, voilà, 99, c'était encore tabou. Plein de gens ne le connaissaient pas. Et donc, j'ai fait une intervention visuelle avec à partir d'images d'archives que j'ai scannées et que j'ai agrandies en impression laser et marouflées sur les murs de la billetterie du Mediator en jouant sur la volumétrie des espaces. Et pour donner, bien sûr, cette dimension physique aux images, l'échelle 1, l'échelle réelle. Donc on était devant des réfugiés dans des camps, imprégnés dans les murs du Mediator. Voilà, c'est parti de là. Et après, tous les 10 ans, 2009, 2019, à chaque 10e anniversaire de la Retirada, soit de mon initiative, soit parce qu'on me le commandait, j'ai fait des séries d'œuvres. Voilà, le petit déroulé de mon parcours sur la mémoire.
Oui, donc tu t'es intéressé à comment rendre visible quelque chose qui était tombé de l'oubli collectif.
Exactement. Voilà, on sait bien que la photo, c'est quelque chose qui... ça a été développé par beaucoup d'auteurs, hein, Walter Benjamin, Roland Barthes. La photo rend visible, bien sûr, la mémoire en particulier. Et moi, ma mission, c'est de prendre le relais de photographes auteurs. Comme, alors pour la Retirada, Un de mes auteurs principaux, c'est Manuel Moros, donc lui qui est décédé en 75, je crois. Donc c'est un artiste franco-colombien qui vivait à Collioure dans les années 30. Un artiste peintre, photographe et peintre. Il avait deux activités. Et il a été témoin direct de la retirada. Et il les a photographiés avec son Leica, parce qu'il avait quand même du matériel professionnel. Et ensuite, ces photos ont été cachées, puisque c'était en 39. Et si elles avaient été découvertes par les Allemands, elles auraient sûrement été détruites. Donc voilà, il y a une belle histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces photos sont cachées. Et c'est le neveu de ce photographe qui devient le légataire des images. Voilà, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2018-19. Donc c'est Jean Penef. Maintenant, il est très âgé, bien sûr. Et ce monsieur a accepté que ce fonds photographique soit exposé à Perpignan en 2008, pour la première fois. À la Poudrière à Perpignan. Et moi, je découvre ces photos de Manuel Moros en 2008 à la Poudrière. Et en même temps, je découvre la Poudrière, qui est un bâtiment militaire très impressionnant. Et là, j'ai un double choc émotionnel. D'abord, les photos de Manuel Moros, très touchantes. On voit que ce ne sont pas des photos de reportage habituelles. Photo d'un artiste avec beaucoup de sensibilité, ça me touche, et l'architecture aussi. Alors j'insiste là-dessus sur les deux aspects, parce que la photo, c'est pas très physique, par contre l'architecture, c'est quelque chose qui enveloppe le corps, qui a une présence physique pour moi plus importante, et les deux vont me marquer. Et l'année d'après, je fais mes premières grandes œuvres sur la retirada, donc en 2009, qui vont être exposées dans la Poudrière. Donc un an après avoir vu les photos, moi j'installe, puisque là c'était vraiment des installations, faites à partir de planches de bois brut, du bois de coffrage, intercalées avec donc des planches, en général c'est des installations où j'utilise deux photos différentes que j'entrecroise. Il y a une lame de photo sur une planche, une lame de l'autre photo sur l'autre planche. Alors pourquoi cet intercalement? Pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, ça renvoie au principe même de la mémoire, à la mémoire traumatique. C'est une mémoire disparate, fragmentée, qui est faite de bribes. Et donc, voilà. Moi, en intercalant comme ça ces images, en brouillant la lecture, ça part de la mémoire qui est brouillée, mémoire traumatique qui est brouillée. Et puis le bois de coffrage, c'est le bois des baraques. C'est le bois qui était utilisé pour abriter les réfugiés de la retirada. Donc il y a une double référence dans les installations qui se présentent comme des sortes d'architecture murale réduite, un peu ramenée contre le mur, par contre à l'échelle du corps. Pour moi, c'est important de donner du corps aux images, donner du corps à la mémoire, donner du poids à la mémoire. Donc c'est du lourd, c'est une installation, c'est 20, au moins 20 planches comme ça, marouflées de photos, avec une ossature bois. Donc voilà, ça prend de la place, ça prend de sa place.
Et les personnages qu'on voit sur ces installations photos ont la taille humaine ou sont plus grands que...
Non, en général, ils ont à peu près la taille humaine. Des fois un petit peu plus pour venir presque chercher le regardeur, même s'il est loin. C'est des pièces qui sont faites pour des grandes salles, pour des lieux de mémoire. Donc elles sont monumentales. D'ailleurs, le titre de cette série-là, de 2009, c'est « Mémorial Retirada ». Parce qu'il faut savoir qu'en 2009, dans les PO, il n'y avait pas de lieu de mémoire sur ce drame historique. puisque le mémorial de Rivesaltes, il date de 2015. Donc 2009, pas de je suis étonné, je me dis, mais un drame historique de cette importance, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de lieu de mémoire? Et je me suis dit, moi je vais en faire un, avec des planches, du bois et des photos.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir, qui commencent à parler de leur... Est-ce que ça crée une base de, justement de rappel pour certaines familles?
Ah oui, c'est... J'en ai des frissons, là. Tellement ça peut déclencher des réminiscences, des pleurs. Moi, j'ai vu des personnes... soit des enfants de réfugiés, soit des petits-enfants, craquer, quoi, devant mes installations. C'est arrivé plusieurs fois, et à Rivesaltes, pareil. Il y a la présence, la prégnance, je pense, de l'image, parce que je lui donne une telle dimension à l'image, par mon travail. Déjà, il y a l'échelle. Je suis dans des échelles, on est face à face avec l'image, hein, dans des rapports d'échelle identiques. Mais il y a surtout cette fusion entre l'image et son support qui vient. L'image est incorporée, quoi, au sens propre. Et ça, combiné avec la taille humaine de l'installation, ben ça touche, quoi, ça, voilà, c'est puissant. Ben, il n'y a pas que la mémoire historique qui m'intéresse, il y a aussi la mémoire qui est portée par les arbres, et je m'intéresse beaucoup aux arbres remarquables. Et depuis 2019, je parcours la France et l'Europe pour aller rencontrer des arbres, comme j'irais rencontrer un vétéran de la guerre ou quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui aurait des choses à raconter. Sauf que là, ça se passe silencieusement, bien sûr, avec l'arbre, mais c'est tout aussi fort puissant pour moi. Ces arbres qui ont plusieurs centaines d'années en général. Les plus vieux que j'ai vus, c'est en Normandie, des ifs. J'en ai vu un de 1200 ans et un voisin à côté de 1500 ans. C'est des arbres, quand on est devant, on n'est pas grand-chose. On a envie de se taire et d'admirer. C'est des arbres qui sont même... c'est devenu des sanctuaires, hein, des petites chapelles. Il y en a un qui a deux petites portes, avec une serrure, une clé, et à l'intérieur il y a un autel. Et c'est un arbre vivant qui a 1500 ans d'histoire. Okay. Voilà le genre de choses que je fais, ça c'est plutôt l'été, des petits voyages, pas anthropologiques, il faudrait inventer le terme, alors dendrologique, je sais pas, la dendrologie c'est l'étude des arbres. Trouver un concept.
Merci beaucoup, Philippe.
Avec grand plaisir.
Oui. À bientôt.
À bientôt.
Grammaire fantôme. On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.